Europe 1. 6h, 9h.
Lénaïque Monnier.
Et à 7h, le journal vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Nous prendrons dès le début de ce journal la direction d'Israël, où les habitants viennent de vivre une nuit cauchemardesque. Israël touché par une attaque iranienne sans précédent.
Attaque qui suscite de vives inquiétudes à l'international. Elle fera l'objet d'une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Convocation des membres du G7 également, on vous fait le point dans le journal.
Et puis attaque au couteau perpétrée hier en Australie, mercredi à Bordeaux. Le débat sur l'armement de la police municipale relancé. Y êtes-vous favorable? Europe 1, CNews et le JDD vous ont posé la question.
Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, la pop culture. Mathieu Alterman, on parle?
Je vous parle des chanteuses des années 80, mes amours.
Et avec Roland Pérez, ai-je le droit
de consommer du cannabis si je le fais? Écoutez-moi bien, dans un cadre thérapeutique.
Et ce sera après le journal. Et votre tendance météo, Anthony Kazmarek?
Et une dégradation nuageuse essentiellement va donc concerner le quart nord-ouest aujourd'hui. C'est là qu'il fera le moins chaud, 14 à 21 degrés. Mais encore un temps estival ensoleillé au sud et à l'est avec 22 à 29 degrés.
Et météo complète après le journal.
Europe 1.
Et nous prenons donc immédiatement la direction d'Israël, attaqué pour la première fois de son histoire sur son sol par l'Iran.
Téhéran qui a déclenché cette nuit son opération Promesse Honnête en lançant avec l'aide du Hezbollah libanais et des rebelles houthis plus de 200 drones et missiles en réponse au bombardement de son consulat à Damas il y a 2 semaines. 99% ont été interceptés avec l'aide des États-Unis selon l'armée israélienne, mais dans le pays, la nuit a été très longue. Les précisions de la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv, Ariane Ménage.
Beaucoup d'Israéliens ont gardé cette nuit les yeux rivés sur les chaînes de télévision. Sur les écrans, le porte-parole de l'armée israélienne a multiplié les apparitions pour expliquer à la population les consignes de sécurité. Il était un peu plus de 23h, heure locale, lorsqu'il a annoncé que l'attaque iranienne était lancée. Très vite, donc, les Israéliens ont commencé à s'organiser pour faire des provisions d'eau, de nourriture, pour retrouver des proches, pour trouver un abri sécurisé. Et puis, passé 1h du matin, les sirènes d'alerte ont commencé à retentir dans plusieurs villes, à Jérusalem notamment, ou à Beersheba, grande ville du sud du pays. Dans ces zones, on pouvait entendre dans le ciel des détonations, voir la lumière provoquée par les interceptions. Ce matin, l'armée israélienne affirme qu'elle n'a pas identifié de nouveaux tirs venus d'Iran, mais c'est toujours l'état d'alerte, et en particulier pour les habitants du nord d'Israël à portée de tir du Hezbollah, allié à Téhéran.
Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Bonjour Geoffrey Branger.
Bonjour Alban, bonjour à tous.
Geoffrey, cette attaque sans précédent, elle fait peser la menace d'un chaos total au Moyen-Orient, et forcément les réactions à l'international sont très vives.
Oui, pour l'Égypte d'abord, cette situation fait peser le risque d'une expansion régionale du conflit, avec la crainte de voir d'autres pays ou d'autres groupes entrer en guerre contre Israël. Côté européen aussi, Allemagne, Italie, France, on s'inquiète de voir la région tomber dans le chaos. Une crainte justifiée selon David Rigoulet-Ros, docteur en sciences politiques, spécialiste du Moyen-Orient.
On est clairement là dans un risque d'engrenage régional majeur. Il y a un choix lourd de la part de l'Iran qui prend un risque majeur en s'engageant dans une confrontation directe et en attendant évidemment une réponse directe de la part du pays visé, en l'occurrence l'État hébreu.
Les États-Unis condamnent fermement cette attaque. Les forces américaines ont d'ailleurs contribué à abattre les drones et les missiles tirés sur Israël hier. Joe Biden a également annoncé rassembler aujourd'hui ses homologues du G7 afin de coordonner une réponse diplomatique. L'Angleterre, de son côté, a envoyé la Royal Air Force pour soutenir Israël. L'État hébreu qui a par ailleurs demandé une réunion en urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Une réunion qui devrait se tenir ce soir à 22h heure française.
Et la Chine a également réagi ce matin en faisant part de sa profonde de préoccupation concernant l'aggravation actuelle de la situation et appelle à faire preuve de retenue.
L'actualité ce matin, c'est également l'horreur qui a endeuillé l'Australie hier, cette attaque au couteau perpétrée dans un centre commercial de Sydney.
Attaque qui a fait 6 morts et plusieurs blessés, dont un bébé de 9 mois qui a dû être opéré en urgence. Une scène traumatisante pour les centaines de personnes présentes au moment des faits, à l'image de Johan François Philippe. Il travaille comme vendeur dans l'une des boutiques du centre. Il s'est confié à Wilfried De Villers en exclusivité pour Europe 1.
C'est le milieu de l'après-midi, les allées du centre commercial de Bandai Junction sont noires de monde quand un homme armé d'un grand couteau se met à frapper de tous les côtés. Au troisième étage, Johan François Philippe est en train de travailler dans sa boutique de bagages quand il entend soudain des cris.
Au départ, nous pensions qu'il s'agissait d'une manifestation violente. C'était très confus. Puis c'est devenu beaucoup plus clair.
Il aperçoit une personne ensanglantée gisant au sol, ferme boutique, verrouille les portes pour se mettre à l'abri quand une femme vient soudain frapper, hurlant de frayeur.
Quand on lui a ouvert la porte, on a vu l'assaillant chuter percuté derrière elle et un couteau tombé de sa main. On l'a tiré à l'intérieur avant de refermer la porte. L'homme s'est relevé, a repris son couteau calmement avant de poignarder une femme.
Johan et son collègue assistent impuissants à cette scène d'horreur. L'assaillant poursuit sa course meurtrière dans les allées du centre commercial, tuant 6 personnes, en blessant gravement 8 autres, dont un bébé. L'homme est abattu quelques minutes plus tard par une policière.
Attaque au couteau hier en Australie, mercredi. C'était à Bordeaux, des drames qui relancent le débat sur l'armement de la police municipale. Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, s'y oppose fermement, même son de cloche à Nantes ou encore Lille. Mais les Français, eux, ils sont plutôt favorables dans un sondage CSA que vous révèle Europe 1 CNews et le JDD ce matin. Décryptage avec Arthur Delaborde.
Près de 6 Français sur 10 veulent voir les policiers municipaux armés, ce qui n'est pas le cas dans certaines grandes villes comme Bordeaux, Nantes, Lille ou Paris. Les résultats laissent apparaître un clivage politique. Si les sympathisants de droite et du centre sont très largement favorables à la systématisation du port d'armes, la tendance s'inverse à gauche. Dans le détail, c'est au Rassemblement national que l'on souhaite le plus armer les policiers municipaux. 77% des partisans du RN y sont favorables, position partagée par 68% des sympathisants du parti présidentiel Renaissance. À gauche, c'est au Parti Socialiste qu'on se montre le plus hostile à l'idée. Seulement 42% des soutiens du PS sont pour. Un chiffre à peine plus élevé, 43% chez les Insoumis.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Et la présence policière, elle a été renforcée au Champ de Mars à Paris.
Secteur dans lequel la délinquance a baissé de manière significative, s'est félicité hier Laurent Nunez. Selon le préfet de police de Paris, la mobilisation renforcée des forces de l'ordre à 100 jours des Jeux Olympiques qui a permis de faire chuter de 58% en un an les atteintes aux personnes, 18% pour les atteintes aux biens.
Et puis, nouveau signe de cette ultra-violence qui s'installe en France. Un arbitre de foot frappé à coups de pied, de genoux et de poing après un match de district.
Le pire a sûrement été une nouvelle fois évité la semaine dernière, puisqu'à la fin d'un match de l'AS Bellecour-Perrache, 3 joueurs âgés de 15 ans seulement ont suivi l'arbitre, puis l'ont lynché alors qu'il attendait un arrêt de tram. Les ados ont écopé d'une suspension de 20 ans, 2 ans pour le président du club. Les précisions de la correspondante d'Europe 1, Noémie Loisel.
J'étais désespéré, je savais que ça allait mal finir.
Jamais Adam, ce jeune arbitre de 15 ans, n'a pensé se faire agresser. Mais le 9 mars dernier, la tension monte d'un cran lors du match qui oppose l'équipe lyonnaise à AS Bellecour-Perrache au pont de Cherui. Adam sanctionne d'un carton rouge et de plusieurs jaunes les joueurs lyonnais. L'équipe adverse égalise. Pour les Lyonnais, le coupable c'est Adam. Ils veulent alors en découdre et commencent à le menacer jusque dans les vestiaires, puis l'attendent à la sortie devant le stade. Il sera finalement retrouvé et poursuivi à quelques mètres de là, à son arrêt de tram.
Ils ont commencé à m'encercler. J'ai reçu plusieurs menaces de mort. J'ai reçu des coups de poing, des coups de pied, coups de coude. Je m'étais même sorti avec des bleus tout au long de la cuisse droite. Je me suis dit, c'est fini pour moi peut-être. J'étais devant 30 personnes. Je ne savais pas si j'allais m'en sortir ou pas.
L'adolescent réussit finalement à s'échapper. Aujourd'hui, malgré l'angoisse et la peur toujours présente, Adam est retourné arbitrer.
Pour moi, c'est important de continuer pour montrer comme quoi ils avaient tort de faire ça, que ça rend juste plus fort.
Depuis, ses parents l'accompagnent à chaque match. Adam a eu 5 jours d'ITT. Une plainte pour agression a été déposée. Lyon, Noémie Loisel, Europe 1.
Et on va passer au sport à présent, Alban, avec du tennis et le tournoi de Monte-Carlo. Casper Ruud a créé la surprise.
Et oui, le jeune Norvégien a déjoué les pronostics en s'imposant pour la première fois face à Novak Djokovic en 3-7, 6-4, 1-6, 6-4. Alors qu'arrive-t-il au Serbe? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour lui, Christopher Filhoc? Je rappelle que nous ne sommes qu'à un mois seulement du début de Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle.
Eh bien, Novak Djokovic s'était qualifié dans le dernier carré de la compétition, une première depuis 2015. Auteur d'une saison dernière sensationnelle, hein, 3 grands chelems, 2 Masters 1000. Le Serbe marque le pas depuis le début de l'année, pas de titre à son actif. À Monte Carlo, l'homme aux 24 titres en grand chelem n'a pas affiché un niveau de jeu extraordinaire et a même semblé très marqué par la chaleur, notamment lors de son quart de finale au micro d'Eurosport.
Ça a été dur, beaucoup de fatigue, j'ai souffert sur le court physiquement. Je sais pas qu'est-ce qui passe, mais... C'est pas mon niveau meilleur, mais je tous les jours cherche pour mon niveau maximum.
Auteur de 32 fautes directes, Novak Djokovic a alterné le bon et le très moyen, finissant même sur une double faute. Il avait déclaré avant le tournoi qu'il n'avait pas de réelles attentes, mais le Serbe a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale sans produire un tennis extraordinaire. De quoi prendre des repères pour Roland Garros où il sera certainement plus en maîtrise.
Christopher Filhoc, la finale du tournoi de Monte Carlo, c'est donc cet après-midi à 15h. sans Novak Djokovic, mais ce sera Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas. Et puis en foot, Strasbourg respire un peu grâce à sa victoire hier en 29e journée de Ligue 1 face à Reims, 3-1. En revanche, la série noire continue pour Rennes avec une nouvelle défaite face à Toulouse, 2-1. Trois matchs à suivre aujourd'hui à 13h, Le Havre-Nantes, à 15h, Clermont-Montpellier et à 20h45, Lyon-Brest.
Avec un match de haute tension entre Lyon et Brest. Merci beaucoup, Alban Le Prince.